Et bonjour à tout le monde, merci d'être à l'écoute de 48FM. Nous sommes en direct du Salon du Livre, ici à la Halle Saint-Jean, qui est encore ouvert toute l'après-midi. Bien sûr, vous pouvez venir nous rejoindre. Nous sommes autour de cette table, de ce plateau, avec Valérie qui anime l'émission avec moi, que vous allez entendre d'ici à quelques minutes. Également Arlette Séblin, qui est présidente des Amis de la Bibliothèque. Bonjour Arlette.
Bonjour.
Et Guy Salaï, qui est avec nous, que tout le monde connaît. Bonjour Guy.
Bonjour, voilà, je suis là pour la Bibliothèque Lamartine.
Absolument, Guy. Et Guy, la Bibliothèque Lamartine qui organise cette manifestation Aime Lire avec de nombreux partenaires, nous en entendrons dans cette émission, dont les Amis de la Bibliothèque. Nous sommes aujourd'hui à l'Halle Saint-Jean pour le Salon du Livre. C'est le 7e Salon du Livre, mais ce n'est pas la 7e édition d'Aime Lire.
Absolument. Aime Lire, ça s'appelait auparavant Lire en Fête. Et du coup, en cumulant le nombre d'éditions, on arrive à 12. Donc 7e édition du Salon du Livre, mais 12e édition de la rencontre autour de la littérature. Littérature plus un thème choisi annuellement par une sorte de petit conseil qui regroupe des membres de l'association des Amis de la Bibliothèque et puis bien sûr des responsables de la Bibliothèque Lamartine.
D'accord, alors peut-être vous parliez du thème qui est choisi chaque année, qui est différent. Vous pouvez peut-être revenir sur le thème qui a été choisi pour cette édition 2018 et nous expliquer un peu pourquoi. Guy ?
Alors cette année, effectivement, puisque toutes les municipalités, etc., avaient été sollicitées pour commémorer le 100e anniversaire de la fin des combats de 14-18, la ville de Mende avait fait le choix, bien sûr, de monter toute une programmation autour de cette commémoration-là. Et il nous a paru évident qu'il fallait partir dans la trace, comme l'année dernière, nous étions dans littérature et cinéma. Donc cette fois-ci, littérature et la Grande Guerre, voilà ce qui a été retenu réellement. Avec la grande difficulté, c'est comment présenter justement la Grande Guerre dans les écoles et qui plus est dans les cycles 1, puisque le cycle 1, c'est quand même les très petites et les petites et les moyennes sections plus le CP. Alors ça nous a paru assez compliqué, mais la difficulté ne doit pas empêcher de voir la réalité et puis on ne doit pas déconnecter les enfants de leur environnement. Alors on a quand même choisi avec les Amis de la Bibliothèque, on en a largement parlé, on a choisi d'aborder le sujet et d'essayer de trouver des intervenants, on pourra parler un petit peu des intervenants tout à l'heure, qui sont tout à fait à même de travailler ce thème et l'approcher au plus près de l'enfant, justement, de 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, d'une façon tout à fait ludique, sans parler des combats, de l'aspect militaire, etc. Mais sans oublier quand même cette histoire-là, parce qu'elle fait partie de notre patrimoine.
Alors, au niveau des intervenants qui sont donc allés dans les écoles toute cette semaine, est-ce qu'on peut un peu en parler, voir combien d'enfants est-ce qu'ont été touchés par ces interventions?
Alors, on peut parler de tout ceci, mais juste en amont, il faudrait préciser que, comme je le disais tout à l'heure, la ville de Mende a souhaité mettre une programmation assez lourde là-dessus. Donc déjà, au préalable, des ateliers ont été réalisés par Xavier Boulot, par exemple, et Roland Lesnuel. Nous, quand on a organisé Aime Lire avec les Amis de la Bibliothèque, on a dit on va donner la priorité à tous les établissements ou tout au moins les classes qui n'ont pas bénéficié de ces intervenants auparavant. Donc effectivement, pour les nommer, on avait présenté par Canopée Fred Sauchard. Il a pu intervenir, Fred Sauchard, sur les cycles 3. On avait après Frédéric Medrano, qui est un illustrateur, il est infographiste, etc. Et lui, il a travaillé sur des cycles 2 et des cycles 3. François Vincent, qui était sur des cycles 3 également. Maryse Lamigeon, avec une bibliographie particulièrement étendue. Et elle travaillait uniquement sur des cycles 2, avec un projet tout à fait intéressant. On pourra en parler tout à l'heure. Alors, on avait également Bruno Capel et Iris Lancery. Alors, eux, je leur avais demandé de travailler sur des cycles 1, donc des tout petits. Et c'était très délicat. Et ils m'ont fait passer une affiche qui représentait un pigeon. Et dessus, ils ont marqué le pigeon Daniel. Non, je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Ils sont complètement trompés. C'est pas possible. Alors, je les appelle. Ils m'ont dit, alors oui, Daniel, c'est le descendant. En fait, son grand-père, c'était le pigeon vaillant. Mmh. Et alors, de suite, un grand sourire. Et effectivement, ils ont monté une composition donc musicale, artistique et de la chanson, des paroles, etc. Et tous les enfants ont adhéré, tant si bien qu'à la fin de chacune des interventions, tous les enfants se déplaçaient pour aller caresser la peluche Daniel. Et aujourd'hui, enfin hier et avant-hier, pardon, jeudi et vendredi, ils présentaient une de leurs réalisations sur Toulouse. Ils ont dit, en marge, on présentera ceci. Apparemment, ils ont eu un succès fou, ils le rentrent en programmation. Donc on est ravis, voilà. Après, qui est-ce que l'on a eu?
On a oublié Laurent.
Oh, Laurent Rousset. Alors, Laurent Rousset.
Le grand Laurent.
C'est un personnage.
Rousset.
Laurent Rousset s'appelle Steve Eyre, mais il s'appelle aussi le colonel Crank. En fonction de l'ouvrage sur lequel il travaille, il va trouver un nouveau nom et il se présentera sous ce nouveau nom-là. Et Laurent a été admirable parce qu'au dernier moment, j'avais un couple qui devait venir pour faire des interventions sur des cycles 1. Mmh. Et il n'a pas pu venir parce que peut-être une pression leur a été mise pour être présent sur le festival de Montreuil. Mmh. Donc j'ai repassé un petit peu les intervenants que j'avais sollicités. Mais je voulais être rassuré en ayant quand même quelqu'un qui accepterait de travailler le vrai thème. Et Laurent m'a dit « Oh ben écoute, ne te fais pas de soucis, je descends ». Donc pour moi c'est bon. Et Laurent, il a fait un travail magnifique. Mmh. Il est très décontracté.
Il avait très mal au dos à la fin parce qu'il trouvait que les petits étaient vraiment très bas pour s'adresser à eux. C'était compliqué.
Oui, il faut dire que Laurent fait à peu près 2 mètres de haut. Voilà. Voilà, c'est au-delà du rugbyman. Mmh. Mais il est adorable, voilà.
Et donc, il a réussi, au pied levé, à trouver comment les faire travailler sur ce sujet-là.
Mais cette année, on a eu des interventions extraordinaires parce que tous ont travaillé le thème d'une façon formidable et tous les enfants ont adhéré. Hein.
Laurent leur a fait, pas dessiner, mais par le biais du collage, leur a fait faire une tête de poilu. Donc, il nous racontait que d'abord, il a fallu essayer de voir qu'est-ce que ça pouvait être un poilu. Parce que pour un enfant de 2 ans et demi, un poilu, voilà.
C'est la bande dessinée Petit Poilu.
Voilà, c'est la bande dessinée Petit Poilu. Donc,
quelle culture.
Quelquefois, ils sont arrivés à faire des gueules cassées. Parce que quand ils collaient les yeux étaient un petit peu de travers, la bouche aussi, voilà.
C'était l'occasion donc d'expliquer peut-être par ce biais-là.
Ça aussi, comment les soldats pouvaient revenir de la guerre et que quelquefois on ne les reconnaissait pas. Voilà.
D'accord. Au-delà de ceci, on a également après François Vincent par exemple, il a approché le thème de la littérature et grande guerre au travers des animaux et il a parlé de l'engagement des chevaux, des ânes, etc. Ça lui a permis de faire une porte sur bien sûr le conflit mais également de ce qui se passait dans nos campagnes. Et je trouve ça admirable parce qu'il a pu parler des femmes. En fait on parle toujours des poilus, on parle de tout ceci mais on oublie un petit peu ce qui se passait à l'arrière. Et lui au travers justement du message les animaux et notamment le cheval ou l'âne, il a pu parler de ce monde-là qu'on oubliait un petit peu. Et son amie, donc Maryse Lamigeon, elle avait monté toute une rencontre en faisant découper des pigeons qu'elle avait dessinés, etc. Et chaque enfant réalisait un petit message et l'attachait, après l'avoir enroulé, l'attachait autour de la patte du pigeon. Ça lui a permis là aussi d'expliquer un petit peu la présence d'efforts, etc., etc. Et je trouve que c'est cette intelligence-là que l'on doit avoir sur des thèmes particulièrement sérieux. Ça a permis effectivement de s'approcher des enfants au plus près.
Oui, parce que sur le pigeon, mon fils l'a fait, par exemple, hier, il était très content de me dire « Mais tu sais, maman, dans la guerre, il y avait des pigeons voyageurs qui amenaient des messages. » Alors, on a écrit, nous aussi, un message, mais des messages d'amour, parce que c'est pas la guerre maintenant.
C'était plus des messages d'amour ou de paix, mais surtout des messages d'amour, d'après ce que nous a dit Maryse.
Ils sont rassurants.
Et en fait, l'intérêt d'ateliers comme ça, c'est effectivement de rapprocher l'enfant de l'expression écrite, qu'elle soit dans l'écriture ou dans le dessin, ou etc. Et les enfants adhèrent parce qu'ils se rendent compte que finalement, qu'ils maîtrisent ou pas une forme d'orthographe ou d'expression, ils ont leur part et ils peuvent s'exprimer à tous les niveaux. Et c'est ce que Emelire cherche à retrouver et à rendre de la confiance à l'enfant.
Voilà, parce que j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup de livres qui touchent ce domaine de la Grande Guerre? Mais au-delà de la Grande Guerre, il y a beaucoup de sujets transversaux qui doivent être traités, comme on parlait des animaux, quand on parlait de ce qui se passait, non pas au front, mais à l'intérieur de...
À l'arrière.
Il y a beaucoup de sujets qui sont traités comme ça sur la Grande Guerre.
Alors donc, par exemple, on était en train de réfléchir qui allait parler. Non, on a trop de choses à dire. Alors, par exemple, nous avons eu la conférence de M. Davachi, David Davachi, le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ça, c'était jeudi soir. Et lui, il nous faisait une présentation sur le panorama des publications de 14-18 pendant et après-guerre. Et on se rend compte qu'au travail de cette présentation magnifique, parce que ça a été une conférence plus que riche, hein, et je remercie M. Davachi au niveau, on se rend compte que des ouvrages qui parlent de la guerre ou des mémoires de poilus ou des mémoires d'officiers ou etc., c'est incroyable le terreau que cette guerre-là a représenté à la réalisation de ces ouvrages. C'est impossible même à dénombrer le nombre d'ouvrages qui sont issus de ce thème. Par contre, effectivement, quand j'évoquais tout à l'heure les femmes dans la guerre, etc., là, on réduit vraiment le nombre. Et il n'y a pas grand-chose qui a été fait, ou de sérieux, hein, on parle quand même de niveau correct. Et après, parlant des animaux, effectivement, là, on est beaucoup plus discret. Ce qui est dommage, parce que la guerre sans animaux, ce n'est pas possible, surtout celle-là. Et là, le fait que certains intervenants ont mis l'accent sur justement cette phase, c'est important pour montrer que tout le monde était impliqué jusqu'au plus profond des campagnes, jusque dans les étables, les écuries et tout le monde était concerné.
Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'à la fin de la guerre, dans les années 30, ont écrit des auteurs qui avaient participé à la guerre. Et du coup, ça rend un roman ou un écrit différent de ce qu'ont pu écrire beaucoup d'auteurs, parce qu'il y a eu beaucoup de publications, hein, Guy, qui, eux, relatent, mais n'ont pas participer, ne sont pas allés, n'ont pas connu les tranchées. Et là, il y a eu effectivement beaucoup de publications. Après tout ce qui est la guerre et les femmes, la guerre et les animaux, on a l'impression que c'est arrivé beaucoup plus tard, que les auteurs s'en sont intéressés beaucoup plus tard. Ils ont réalisé plus tard qu'il s'était aussi passé des choses à l'arrière.
Alors, grâce à la conférence de M. Davachi également, il y a une chose qui a été intéressante, c'est qu'on a pu s'apercevoir que certains écrits ont été produits en 1914, 1915, 1916. Parfois, ils étaient allemands et immédiatement, avec à peine un an de délai, ils étaient traduits en français. Et l'inverse était valable aussi. C'est surprenant parce que c'est une phase que l'on connaît bien moins dans ces conflits-là. En fait, la culture a toujours eu dépendant d'un pays à l'autre. Et ça, c'est magnifique aussi. Bon, les thèmes qui ont été évoqués, c'était quand même des thèmes un peu portés sur le combat, la guerre, le sang, etc. Certes, mais de l'autre côté, voyons l'aspect communication, il était multifacette.
Et ici, on parle beaucoup en ce moment du journal d'Émile Joly. Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages qui ont concerné des Lozériens ou est-ce qu'il y a des Lozériens qui ont écrit sur la Grande Guerre, y compris des Lozériens contemporains?
Il y a foule d'auteurs là-dessus.
Il y a
foule d'auteurs, puisque je pense à M. Pourchet qui a fait un travail extraordinaire là-dessus. Hein. Mais vous avez Chabrol, vous avez Cabanel, tous ces gens-là. Ce sont des noms de référence dans cette écriture-là. Oui. Après, beaucoup plus des ouvrages de collectifs, etc. On a Loupaïs qui a sorti un livre admirable. Il recense tous les morts pour la guerre de 14-18. Hein. Dans toutes les communes lozériennes. Alors l'ouvrage, franchement, c'est, je crois, 19 euros. Je ne fais pas de publicité pour eux. Mais il est extraordinaire de renseignements. Et puis, vous en avez vraiment pour le prix, quoi. Partout, toutes les communes ont été touchées. N'oubliez pas que la Lozère est le département qui a le plus donné pour la Grande Guerre. Là où tous les départements, en moyenne, sont à peu près à 5,5% de la population touchée par la Grande Guerre, voire pour les plus généreux, jusqu'à 6%, la Lozère a été affectée à au-delà des 11%. Donc, ce sont toute une génération qui a été touchée par justement cette Grande Guerre-là. Donc voilà, des ouvrages, oui, il y en a, qui ont été produits par des Lozériens. Je parlais à celui-ci.
Et contemporain à Émile Joly, il y a un instituteur qui s'appelle Albert Jurquet qui a aussi écrit un livre. Donc ça, c'est pour la même période, hein, avec Émile Joly.
Et également, donc, plus près de nous, dans le moment où Émile Joly, la ville de Mende a souhaité reproduire son document, Jean-Marie Lacour, avec l'association des amis philatélistes, a également produit un ouvrage dont le titre... Il est sur le salon. Et c'est un ouvrage qui parle de tous les hôpitaux temporaires et militaires qui avaient été installés en arrière sur toute la Lozère. Ce qui fait qu'on en trouvait, bien sûr, 7-8 sur Mende, mais on en trouvait sur Langogne, sur Lacanau, sur Saint-Chély. Oui. Et là, on redécouvre la géographie du département. Oui. Donc là aussi, c'est très intéressant.
Par un biais qu'on connaissait pas. Il sera en conférence à la bibliothèque jeudi 13 décembre.
D'accord.
À 18h.
Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui alors sur ce salon, Guy, pour les personnes qui nous écoutent, qui auront envie de venir?
L'offre est beaucoup plus généreuse parce qu'effectivement, on a abordé ce thème de la Grande Guerre. Mais de l'autre côté, le Salon du Livre, c'est aussi le rendez-vous de tous ceux qui ont l'intention de se produire. Donc ça part de Roger Lagrave, qui est un érudit que l'on connaît beaucoup, qui a été encore remarqué puisqu'il a reçu le Grand Prix à Marvejol, etc. Ça, c'est le doyen. Et la plus jeune, c'est Mélanie Rochette. C'est une jeune fille qui doit avoir à peu près 15-16 ans. Et elle est à son troisième ouvrage. Elle est de la Canourgue. Ses grands-parents sont ici sur Mende. Mais je trouve ça formidable de voir que la littérature, elle ne se résume pas juste à un SMS aujourd'hui. On retrouve encore de l'analyse, de la réflexion. Et tout le monde a quelque chose à dire. Donc, on retrouve, bien sûr, pour répondre à la question, tous les auteurs locaux, Marie de Palais, etc., mais également des Lucien Vassal. Puis, on trouve dans la culture un petit peu plus orientée, par exemple, Évasion avec Michel Roche, Guy Blanc. On va retrouver tous nos libraires qui sont de grands conseils, Dominique Chaptal, mais également Le Rouge et le Noir, Saint-Chély, avec Pascal Aurijac. On a également Héloïse, La Lorgnette. Et après, moi, je salue Canopée, parce que Canopée est un atelier de référence, notamment en littérature qui s'adresse aux enfants et qui accompagne l'enseignant dans le choix des documents qui vont être abordés. Et Canopée avait fait venir Fred Sauchard. Le travail a été magnifique parce que Fred Sauchard, ça nécessitait un travail en amont qui a été réalisé par les personnels de Canopée. Et après, lui arrivant, il faisait la conclusion. Et ça va être une matière qui va nourrir tout le programme scolaire pour le reste de l'année scolaire. Voilà, c'est l'intérêt de MLIR.
Je crois qu'il faudrait peut-être ajouter que dans notre région, en Occitanie, mais en Lozère, il y a pas mal de petites maisons d'édition. Et quand on va faire le tour, là, on va s'en apercevoir. Moi, je découvre des choses. Pourtant, je suis là, je devrais le savoir. Je ne savais pas qu'à Grèzes, il y avait une petite maison d'édition. Elles sont là et c'est remarquable ce qu'elles font.
Les éditions voilà. De l'EPR.
Et vous allez voir tout à fait dans le même secteur, vous allez voir qu'il y en a plusieurs comme ça.
On va les recevoir tout à l'heure. On va recevoir Canopée juste après vous aussi. Donc là, on est à l'apothéose de cette semaine à MLIR avec ce Salon du Livre qui clôture cette semaine.
Fin, voilà.
C'est la fin. Ça s'est bien passé toute cette semaine.
Il faudrait peut-être dire que ça a commencé par le partenariat que nous avons depuis 7 ans avec le Ciné-Club. Et donc, on a projeté le film « À l'Ouest, rien de nouveau » de Lévis Millstone et qui est l'adaptation du roman de Éric Maria Remarque. Sachant que c'est la guerre vue par un pacifiste, mais du côté allemand. Voilà.
Oui, et puis il faut quand même souligner que ce film-là a été une référence dans le monde du cinéma, puisqu'il a été un des premiers à être primé. Et à peine produit, il a été vu et a emporté des prix immédiatement. Et il a servi de base à beaucoup d'autres réalisations.
Par contre, le livre de Remarque, quand il est sorti en Allemagne, il a été censuré. Et bon, quand on voit ce qui est écrit dedans et ce que nous donnent les images du film, on comprend que dans cette période-là,
bon, il a été invité
c'était
aussi.
Très courageux.
Il a été invité aussi à quitter le pays et il s'est installé en Suisse. Alors donc, on comprend aussi.
Oui, oui.
À l'heure où tout se numérise, on est confiant dans l'avenir du livre, Guy ?
Je crois que c'est rassurant même de voir un petit peu cet amour que les gens ont pour l'écrit. Et je crois qu'il ne faut pas se fier à ce que le média télévisé donc, essaye de nous faire avaler continuellement. Oui, le livre connaît des pics de consultation et puis quelques creux. Mais n'oubliez pas que de l'autre côté, tout ce qui est sérieux et tout ça, il y a un grand public là-dessus. Et en fait, c'est un moyen d'évasion extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui ne publient pas, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui se livrent à l'écriture. L'écriture sous toutes ses formes, du roman, de la nouvelle, des pensées, etc.
Puis il y a de la création, de l'invention. Voilà. On continue à voir que des choses nouvelles apparaissent dans ce domaine-là. Donc tous les espoirs sont permis.
Moi, je suis rassuré pour le livre. Je pense qu'il a encore de très très belles décennies devant lui.
Voilà, et en parlant de nouveautés, d'inventions, on va parler de livres 3D là, après, avec Canopée également.
Parfait.
Merci beaucoup. Allez, on fait une pause musicale et on change de plateau. Merci.
C'est l'Oise qui coule la mi, pas le Danube ni le Mississippi. Si c'est Sergi, Sergi. Je
nostalgie, la ciudad où j'ai grandi. Je l'aime autant que je l'ai maudit. Même s'ils ont repeint les murs de la gare en gris, ils ont rasé le quartier de la Croix-Petit. Garçon, resserre-moi une mélodie. Fleur de bitume, papy sans lit. Les embrouilles un peu tombées, les petites combines pour tuer l'ennui. Le tete en duty free, malheureusement, lâche nous faut si mais bon. Faut plus que ça pour pourrir le tableau. Les années pentos, oublie à mes potos. Winner, loser, taffeur, chômeur et tapeur. Mes chers potos sont tous dans mon cœur. Au 6 grands places, j'ai déboulé. J'ai troqué les champs, les poulets, les vassalés. Pour la vie au champ, les vigiles et les poulets. Les pots d'échappement, ouais, c'est sans regret. J'suis pas né dans le Missouri, j'suis pas d'Oklahoma City. J'ai grandi dans le 9-5 à Sergi, Sergi. Mon petit paradis, ma sweet banlieue pourrie. Dans le coin, c'est l'Oise qui coule la mi, pas le Danube, ni le Mississippi. Psychiatrique si t'as d'autres soucis. Au PMU, claque ton RMI. Au pas de la preuve si t'as pas d'amis. Surtout change pas de mélodie. Des filets de starter, de bomber sous Teddy. À la fois ça m'attend, ça poire le hareng frit. Fais ta grande gueule et tu paieras le prix. Bien sûr les filles peuvent de Neltouni. Mon premier amour du côté des Rani. Le grand Béguin, la fille est jolie. Mais la roue tourne comme dans Dynasty. Quelle belle vue de la butte à Juju. D'ici tu domines la vallée comme Gargantua. Une trêve de douceur dans un monde de brutes. Le calme en hauteur avant la grande chute. Claque en garde, Aftès et quartier pauvre. Ma ville suinte, la routine et la piave. Pas de quoi en faire un roman. Juste un petit tour de temps en temps. J'suis pas né dans le Missouri, j'suis pas d'Oklahoma City. J'ai grandi dans le 9-5 à Sergi. Quand c'est l'Oise qui coule la mi, pas le Danube ni le Mississippi. Ici c'est Sergi, oh Sergi, Sergi Moutali. Sergi, 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 Sergi Moutali.
Et nous sommes de retour en direct de la Halle Saint-Jean, toujours pour le salon Aime Lire, la 7e édition de ce salon qui est consacré aujourd'hui à la littérature et la Grande Guerre. Un petit changement de plateau, nous avons autour de Clément Chapon d'Imago Design qui vient nous présenter la Lozère en 3D relief. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également Nadia Ours du réseau Canopée. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Le réseau Canopée, un partenaire, on en parlait avec Guy Salaï qui était là tout à l'heure, important de cette semaine Aime Lire. Peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le réseau Canopée, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ?
Le réseau Canopée, c'est le réseau de création et d'accompagnement pédagogique. Nous accompagnons les enseignants en classe, mais aussi nous leur prêtons des ressources pédagogiques. Et nous réalisons des formations et des animations pour les enseignants et aussi pour les élèves. C'est aussi à destination des élèves.
Alors comment le réseau est intervenu pour cette semaine Aime Lire ?
Alors en fait, on a invité l'illustrateur Fred Sauchard, qui est un illustrateur de littérature jeunesse. On l'a invité pourquoi ? Parce qu'il a illustré le livre « Le casque d'eau papy ». Donc cette histoire était intéressante pour le sujet, le thème du Salon du Livre sur la Grande Guerre, puisque c'est un petit garçon qui découvre un casque de la Grande Guerre et qui va connaître en fait toute l'histoire de la Grande Guerre grâce à ce casque retrouvé dans la terre. Et c'est superbement illustré. Et ce livre est illustré à partir aussi d'une œuvre d'art, en fait. L'œuvre d'art de Fernand Léger, la partie de cartes, qui représente la partie de cartes des soldats de la Grande Guerre. Voilà. Donc ce livre-là fait partie de la collection Pont des Arts. Collection Pont des Arts qui est une collection coéditée par le réseau Canopée et l'Élan Vert.
Du coup, là, tu es venu avec plusieurs livres de Fred Sauchard.
Ouais.
Qui ont un rapport les uns avec les autres ou pas du tout ?
Alors non, ils n'ont pas de rapport les uns avec les autres, mis à part que si, c'est la collection Pont des Arts. Donc cette collection Pont des Arts, c'est une collection qui, à partir d'une œuvre d'art, permet de découvrir des œuvres d'art par la fiction. Donc voilà, c'est une très belle collection qui est à la fois c'est de la fiction et puis c'est très pédagogique parce qu'il y a aussi toute une documentation sur l'œuvre aussi à la fin de chaque ouvrage. Il y a 54 albums dans cette collection qui permettent de découvrir des peintures, des sculptures, de l'architecture. Et donc là, cette œuvre... Le casque d'eau papy, c'est la partie de carte de Fernand Léger. Mais sinon, Fred Sauchard a participé à deux autres de cette collection. Un dragon sur le toit qui permet de découvrir la Casa Batlló d'Antoni Gaudí. Donc là, on fait un voyage dans la maison de la Casa Batlló. Et puis il y en a un autre aussi, on découvre le centre Georges Pompidou à Paris. Donc c'est nom de code Pompidou. Et c'est aussi Fred Sauchard qui l'a illustré. Et Fred Sauchard est intervenu plutôt pour le livre, bien sûr, le casque d'eau papy, puisque c'était le thème. Il est intervenu en classe avec des élèves de cycle 3. Donc il leur a présenté l'œuvre de Fernand Léger. Et ensuite, ils ont réalisé un soldat en matériaux de récupération, un soldat robot.
Avant de revenir sur les interventions du réseau Canopée, merci Nadia. On va passer à la Lozère en 3D relief. Toute une histoire, hein, ce livre, c'est parti d'un appel au financement participatif, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous raconter, un peu nous expliquer comment déjà l'idée est venue de créer cet ouvrage-là ?
Alors moi, à la base, je travaille dans une agence de communication qui fait la maquette de livres pour tierce personne. Et là, on s'est dit, ce serait peut-être intéressant qu'on fasse nous-mêmes, puisqu'on fait de la maquette, on gère de l'impression, on pouvait éditer un livre presque de A à Z. Ça me permettait de voir aussi qu'est-ce qu'il y avait au-dessus et en dessous de la publication, en amont, et puis après, une fois que le livre est imprimé, voir aussi comment il peut vivre. On s'est rendu compte qu'il existait des photos en 3D anciennes. On savait que ça existait à l'agence. On savait qu'il en existait sur Londres, sur Paris, New York, etc. Et sur la Lozère, comme c'est un peu plus reculé, on en avait trouvé quelques-unes, pas énormément. Et on regardait un petit peu sur le site des archives, on s'est rendu compte qu'il en existait une quarantaine. Et en faisant un petit peu le tour des personnes qu'on connaissait, des collectionneurs, des fonds de musées, on a réussi à en trouver une quarantaine de plus. Et on s'est retrouvé avec près une centaine de vieilles photos qui étaient assez intéressantes parce que très peu diffusées et très peu exploitées, parce que pas forcément comprises. Ça se présentait sous la forme de plaques de verre ou de cartes postales avec deux photos quasi identiques côte à côte. Et à partir de là, on pouvait retranscrire la 3D en relief grâce à ces deux images qui sont destinées à chaque œil.
Donc les photos que vous avez récupérées étaient déjà prises en 3D, voilà. Parce qu'il y a dans votre ouvrage, il y a des photos qui sont quand même très anciennes.
Oui, tout à fait. Tout le monde pense que la 3D, ça a été inventé par les États-Unis, des effets spéciaux dans les années 70, ce genre de choses, mais ça date même avant la photographie. C'est un procédé qui existait presque dès le Moyen-Âge. Ça se présentait sous la forme de dessins décalés à l'époque, avec un jeu de miroir. Et puis dès que la photo est arrivée, petit à petit, il y a des appareils photo stéréoscopiques, c'est-à-dire des appareils photo qui permettaient de faire des photos en 3D avec deux objectifs pour faire deux photos simultanément, une pour chaque œil.
On va retrouver quel paysage dans ce livre il nous raconte quelles histoires.
Là-dessus, j'étais un peu tributaire de ce que j'ai trouvé, donc j'ai essayé de couvrir au maximum la Lozère. On va retrouver pas mal les gorges du Tarn, tous les sites touristiques. À l'époque, ils étaient assez couverts au niveau photographique parce que le tourisme commençait à se démocratiser dans les années 30. Donc on va retrouver pas mal de gorges du Tarn, la ville-préfecture, Mende, là-dessus. Et après, pour essayer de combler un petit peu le vide, j'ai fait des photos d'aujourd'hui pour ajouter également de la couleur. Donc ça me permet de rajouter de l'Aubrac, des Cévennes Et malgré tout, en photo ancienne, j'ai trouvé pas mal aussi sur Langogne et Villefort. Donc Margeride, c'est pas mal couvert aussi. Puis voilà.
Est-ce qu'on peut prendre une ancienne photo existante et la transformer en 3D? C'est possible
ça? Alors, techniquement, c'est techniquement possible. C'est assez fastidieux. Ça prend, parce qu'il faut tout détourer. Tous les éléments de la photo, il faut les détourer. Donc c'est un peu comme si on les coupait au papier, coupait au ciseau sur du papier. Et après, il faut leur donner une profondeur. Donc il faut pouvoir les positionner de façon cohérente. Et malgré ça, ça permet de récupérer donc effectivement à partir d'une photo en 2D une profondeur. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le volume. On va avoir des plans en aplat dans une sorte de scène en profondeur. Quoi.
Combien de photos en tout on retrouve ?
Il y a à peu près un peu plus de 130. Au début, il devait faire moins. Il devait à peu près faire 120 pages. Puis on a eu d'autres arrivages de façon tardive parce qu'on a découvert d'autres fonds et qui étaient tout aussi intéressants. Du coup, on a rajouté quelques pages et au final, le livre fait 148 pages. 158 pages, pardon.
Alors, ce ne sont pas que des paysages, il y a des histoires aussi. Je vois, il y a les décorations d'officiers, il y a des cérémonies du 14 juillet, l'autorité civile et militaire.
Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ouvre un petit peu des tiroirs dans des greniers, en gros, si je simplifie les choses, et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc, autant il y aura une photo, deux photos, rien du tout. Sachant qu'elles étaient en très mauvais état, souvent, la plupart du temps, avec plein de poussière, des rayures. Donc j'ai dû faire une restauration numérique. Donc on les a numérisés, on les a nettoyés numériquement par la suite pour enlever des poussières. Et c'est vrai que donc en fonction de ça, on tombait sur des thématiques. Soit c'était militaire, soit c'était des processions religieuses, soit c'était le 14 juillet, ce genre d'éléments. Donc on a directement une histoire sur chaque image. Quoi. Soit ça peut être des cours d'école, parce que l'école à cette époque-là était forcément... privée, donc religieuse, avec côté garçon, côté fille. Donc tout ça aujourd'hui, ça me paraît un peu bizarre pour certains, mais là on remonte vraiment au début de la photo, vers 1920, et même un peu en amont.
Là j'imagine que tu as dû faire toute la Lozère pour retrouver ces photos. Il n'y en a plus la 3D ou on peut encore en trouver
C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas savoir si tout a été trouvé ou pas. J'essaie de rassembler le maximum que j'ai pu. Mais je pense qu'il en reste dans des greniers, chez des familles, dans des endroits où, qui sont soit délaissés, soit incompris, soit oubliés. Quoi.
Pensant que c'est peut-être mal, finalement, que ce sont des photos qui ont été mal imprimées plutôt que photos 3D.
Une photo en 3D, il y a deux façons de la lire, soit avec des lunettes spécifiques, c'est-à-dire un stéréoscope. Là, ça permet de ne pas avoir la perte de couleur. Soit avec, là, dans ce livre-là, la technologie anaglyphe qui donne un côté de mauvaise impression. Parce qu'il y a une image qui est imprimée sur une autre, c'est une fusion de deux images, donc il y a un décalage. Et là, bon, il faut les lunettes rouges et bleues pour pouvoir les lire. Mais sur une photo en noir et blanc, ça marche plutôt pas mal.
C'est fastidieux quand même comme travail, j'imagine. Est-ce que quand on finit un livre comme ça, on a envie de se relancer dans l'aventure? On se dit, oula, stop.
On va dire, la prochaine fois, je prendrai quelques vacances après. Et bon, j'ai d'autres idées, mais là, dans l'immédiat, je pense faire une bonne pause pendant un certain temps, parce qu'effectivement, ça a été pas mal de travail, parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes sur ce livre, entre trouver les photos, leur trouver une légende, parce que des fois, on retrouve les photos, on n'avait pas de date. On avait à peine le lieu, des fois il a fallu les reconnaître, des fois il a fallu faire appel à des personnes qui travaillent aux archives pour pouvoir identifier les époques en fonction des habits. Donc ça a été costaud, même s'il n'y a pas beaucoup de textes, ben les légendes déjà pour les mettre ça a été assez complexe. Puis le travail de restauration numérique, régler la 3D, faire la maquette, donner un univers et un ton au livre sur 158 pages, c'était effectivement un gros travail. Quoi.
Le réseau Canopé ne travaille pas avec la 3D, avec les enfants ou les professeurs?
Si, on commence, ouais.
Ah.
On commence avec des casques de réalité augmentée.
Oui, la 3D revient vachement du coup avec les nouvelles technologies comme effectivement le casque de réalité augmentée.
Quels sont les autres ateliers qui sont proposés durant l'année par Canopé, notamment vers les élèves?
Vers les élèves? On a un événement jeu où là on va faire des ateliers jeux, des jeux éducatifs. On a aussi des ateliers où on fait des escape games. Donc on a d'ailleurs fait un escape game sur la guerre. Alors la guerre, la grande guerre, mais aussi la guerre 39-45. Donc en amont du salon, là. Voilà, on fait des escape games. On travaille avec les élèves en éducation artistique et culturelle. Donc on a réalisé en classe des Vénus d'argile, toujours... en lien avec cette collection Pont des Arts, puisqu'il y en a un qui vient de sortir sur la Vénus de Willendorf. Donc on a réalisé avec notre partenaire de l'inspection académique, la DSDEN, des ateliers d'argile. Voilà, voilà, c'est beaucoup d'éducation artistique et culturelle, beaucoup d'ateliers dans le numérique. Voilà.
La Lozère en 3D, on peut la retrouver où ? Comment on peut se procurer cet ouvrage ?
Il sera disponible prochainement en librairie. Alors, je ne sais pas encore lesquelles, parce que le livre est arrivé fraîchement cette semaine. Donc je n'ai pas encore eu le temps de voir avec les libraires, mais je sais qu'il sera prochainement à Hyper-U aussi. Et il est également disponible en ligne sur Internet. En le tapant, on peut trouver un site qui le vend.
Alors à quelle adresse du coup ?
À l'adresse aken-edition.com.
D'accord. Peut-être un mot sur cette maison d'édition, Aken,
C'est une marque commerciale de l'agence Imago Design.
D'accord, c'est en lien avec vous.
En fonction du financement participatif, on s'est dit, c'est intéressant, le projet a intéressé pas mal de gens, on peut aller un peu plus loin qu'un premier livre et qu'une auto-édition. On s'est dit, on va pouvoir déposer éventuellement une marque commerciale pour faire éventuellement plus tard d'autres livres par la suite.
D'accord, donc avis aux gens qui voudraient être édités.
Oui, éventuellement.
On peut venir vous voir. C'est juste graphique ce que vous allez produire du coup ?
Nous, on peut récupérer tout le contenu d'un auteur, le mettre en forme, voir avec lui qu'est-ce qu'il souhaite comme univers à donner à son livre. Donc, on peut le conseiller sur le choix du papier, les finitions et tout ça. Et on peut gérer donc toute la conception, maquette, impression, jusqu'à la livraison. Quoi.
Très bien. Ben, merci à vous deux d'être venus. On va faire une nouvelle pause musicale et on rechange de plateau radio. Merci. Ouais.
Merci.
Hey, damn it every day. Asking me a question like chop, where you stay? Tell a college ball, where the chop calls. Eat 20 grand, spend a grand at the bar. Just about the zone. J's on my feet. I'm on that patrol. So hit like me. 69 cutlass with the bucket seats. Feet in my trunk, all it just for the freaks. Catch me in the hood, posted at the store. Pistol in my lap on the phone, counting dough. Time.
Allez, de retour pour cette nouvelle partie d'émission avec trois nouveaux invités. Tout d'abord, Didier Bonnel qui va nous parler de poésie. Bonjour.
Bonjour.
Qui nous présente son livre « Le temps à l'envers ». Elle n'est pas à l'envers, c'est Soraya Hossin. Elle est bien à l'endroit, même si elle est un peu fatiguée. Elle vient de nous le dire. Bonjour Soraya, on parle bien devant le micro.
Bonjour.
Et Sandy Berthomieux qui est là aussi pour les éditions de Les Pères, donc toutes les deux, hein, pour nous présenter un livre. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Allez, on va commencer à parler de poésie. La poésie, qu'est-ce qui vous attire dans la poésie, Didier Bonnel ?
Eh bien, c'est la magie de l'émotion. On va dire ça comme ça, pour faire très court. Donc c'est le fait de pouvoir exprimer en quelques mots l'émotion qu'on peut ressentir par l'image, par ce qu'on découvre tous les jours, par la rue, par le paysage, par tout un tas de choses, par la rencontre. Et donc je trouve que la magie de la poésie, c'est de prendre un peu le recul et un peu de hauteur par rapport à tout ça et puis essayer de faire rêver les gens en amenant de l'émotion.
Vous avez toujours écrit de la poésie ou c'est venu sur le tard ? Comment ça s'est passé, votre rapport avec ce style d'écriture ?
Je crois que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai un souvenir de CM2 où j'avais obtenu un prix départemental de poésie dans le cadre de la fête des mères. Donc voilà, tout est parti de là. J'ai retrouvé sur le tard justement ce texte et je trouvais voilà, que c'était intéressant et j'ai gardé tout au fil de ma vie. Aujourd'hui, je suis un retraité, mais pas dans la poésie, puisque dans l'âme, je suis resté un peu dans la magie des mots.
Là, tu en es à ton combienième livre ? Parce que je te suis de près, mais j'avais loupé celui-là.
Donc, je suis à mon cinquième livre de poésie. Bon, il y a à la vente, il y en a qui ont été épuisés, mais maintenant, donc, je suis à mon cinquième livre de poésie.
Et alors peut-être tu pourrais nous lire un petit extrait, parce que j'ai vu que tu avais mis un marque-page.
Voilà. Donc, disons que pour résumer le dernier ouvrage que j'ai publié, je voudrais dire déjà le premier qui s'intitulait « Secret de Troubadour » avait obtenu le prix international de poésie à Toulouse, donc dans le cadre des Jeux Floraux de Toulouse. Donc en soi, ça ne représente peut-être rien, un prix de poésie, mais d'être reconnu pour ce qu'on écrit par des fins techniciens de l'écriture et de l'édition, c'est un moment exceptionnel que j'ai vécu ce jour-là. Voilà. Donc, c'était mon premier livre, premier prix, voilà, c'était intéressant. Donc, le dernier livre que j'ai publié s'appelle Le temps à l'envers et il peut se résumer par un texte très court. Et si on met le temps à l'envers, tournera-t-il aussi vite qu'à l'endroit dans sa fuite en avant ?
Presque un haïku.
Presque. Mais je le définis pas en tant que tel, mais ça peut y ressembler.
On va naviguer entre vous tous ici là, et vous toutes sur ce plateau. Les éditions de Les Pères, on en avait un peu parlé sur notre radio avec Sandy, donc toute jeune maison d'édition qui se situe à Grèzes. Deux cofondatrices, donc c'est bien. Vous avez, toutes les deux, vous venez présenter quel livre aujourd'hui ici ?
Alors on présente nos deux premiers ouvrages qui ont été publiés il y a quelques mois. Donc, « Les clés d'or de l'espace interdit », qui est un livret de restitution d'une résidence de création qui a été fait à Saint-Alban, donc à l'hôpital psychiatrique, avec Lancelot Hamelin et Soraya Hossin, qui ont accompagné des rêveurs, des patients, on préfère le terme rêveur, autour du rêve, donc pendant une semaine. Et le deuxième ouvrage qu'on présente, c'est « Métamorphose », qui est sorti début juillet, qui a un travail sur des photos de famille, de 6 familles qui vivent en Lozère et qui ont été retravaillées, recréer des histoires à travers ces photos et puis des insectes, des papillons. Et là, Soraya en parlera mieux que moi. Voilà, donc c'est les deux premiers ouvrages qu'on a sortis avec la maison d'édition.
Voilà, il y a une spécificité sur cette maison d'édition ?
Donc oui, on va travailler et on a envie de porter dans notre ligne éditoriale des ouvrages photographiques et littéraires. Donc la photographie contemporaine, de la création contemporaine, faire l'image et le texte.
On va passer le micro à Soraya. Soraya, oui, parle-nous de cette expérience un peu sur ce livre-là.
Alors en fait, pour resituer un peu les choses, le travail a été réalisé en 2015 à travers... forcément. Ça a été une invitation lors de la Mostra de Mende, une invitation de Laurent Joyeux et Dominique Brun de l'association Interstice, qui m'ont invité à créer une œuvre in situ, une œuvre artistique sous la thématique de résonance singulière. Donc à partir de ça, j'avais envie de travailler avec la photographie ancienne que j'ai longtemps considérée comme une véritable origine en fait du mouvement de l'art. Et j'ai lancé un appel à collectage auprès de familles lozériennes et 6 familles lozériennes ont répondu à cet appel. On peut considérer la photographie ancienne comme la photographie dite vernaculaire. La photographie vernaculaire, c'est tout ce qui entre dans le registre du quotidien. Et c'était une façon pour moi d'entrer dans l'univers, dans l'intimité même de ces familles à travers leur album de famille. Donc les 6 albums de famille que j'ai collectés, je me les suis réappropriés pour recomposer une mémoire familiale qui devient une mémoire universelle. Après, la thématique de la famille, c'est une thématique qui nous concerne tous, qui nous parle à tous. Donc moi, je me la suis réappropriée et j'en ai fait une forme d'hybridation. Donc j'ai apposé délicatement de réels insectes et des papillons pour effacer le visage du protagoniste, ainsi redonner une autre identité. Et également, on peut parler d'anonymat aussi, parce que certaines photographies, enfin même la plupart des photographies, il y a des personnes qui sont mortes. Mmh. Donc on peut parler d'un cycle de vie et de mort. Voilà ce que je peux dire déjà pour une première approche.
Dans l'ouvrage, on retrouve les œuvres qui étaient exposées justement dans Mende pour la Mostra.
Tout à fait,
c'est ça ?
Oui, absolument.
D'accord. Et des inédites, j'imagine ?
Alors après, il y a eu une réflexion qui s'est aboutie. Parce que pour la Mostra, je disposais de très très peu de temps. Et comme la ville de Mende allait devenir un musée à ciel ouvert, il n'y a pas eu forcément un parcours d'établi. Ça a été surtout les boutiques désaffectées qui m'ont été attribuées, dans lesquelles moi j'allais positionner un peu ces photographies comme justement des insectes volants ou des papillons comme ça qui pouvaient surgir de nulle part. Mais pour le livre, il y a eu une réflexion beaucoup plus aboutie qui s'est faite également en collaboration avec Christine Ulivucci, qui est psychanalyste et auteur d'un livre qui s'intitule « Ces photographies qui nous parlent », si je me trompe bien, c'est ça, hein, si je me trompe pas, qui, elle, a déjà travaillé sur la mémoire familiale. En fait, elle est psychanalyste et elle travaille sur le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'elle va faire une thérapie à partir de photographies de famille. Et avec elle, on a essayé de travailler sur l'inquiétante étrangeté de Freud. Alors, je ne vais pas parler de Freud là, parce que ce n'est pas du tout mon registre. Mais enfin, il y a effectivement quelque chose d'inquiétant, justement, au travers ces photographies que j'ai recomposées. Il y a beaucoup de poésie également. On peut retrouver de la poésie, mais il y a aussi quelque chose d'assez inquiétant. Ça, je ne le cache pas.
Ça a été compliqué comme travail d'effacer des visages ou pas ?
Oui, ça a été pas compliqué physiquement, mais intellectuellement, oui, ça a été compliqué. Physiquement un peu d'ailleurs, parce que la prise de vue s'est faite en studio. Donc la position des insectes a été liée à quelque chose qui pourrait paraître logique, mais dans une continuité, en fait. Il devait y avoir quelque chose quand même d'assez linéaire. Un personnage, un protagoniste devait se suivre au fil des pages, en fait, pour qu'on puisse reconnaître et comprendre également l'histoire de cette réappropriation. Et lorsque je faisais partir la photographie, il y avait des flashs, en fait, qui retentissaient sur l'image, et on avait l'impression, en fait, ça faisait face à des électrochocs, comme si on était en train de réanimer la vie de quelqu'un. Donc c'est ça aussi qui pouvait être assez perturbant en fait dans le processus de création. C'est réanimer également des vies qui ne sont plus. Voilà, on peut voir par exemple chez la famille Priva à Struc, c'est des photographies qui sont très très anciennes et toutes sont liées à la guerre, par exemple, à la Première Guerre mondiale. Et il y en a un qui m'a vraiment fait froid dans le dos, c'est un militaire qui s'en va à la guerre, un jeune homme. On lui tire le portrait avant et moi j'ai positionné un scarabée et lorsque j'ai positionné ce scarabée dessus, on avait l'impression qu'il avait un masque à gaz en fait sur le visage. Et c'est vrai que voilà, c'est une réappropriation. On cache le visage, on le rend anonyme et de suite, il y a une autre personne en fait qui est dévoilée.
Oui, parce que souvent, on pense que c'est le visage qui va donner l'expression sur la photo, mais en fait, avec ton travail, on se rend compte que non, c'est pas forcément...
Dans l'histoire de l'art, le visage a été beaucoup présent, manipulé, réinterprété, etc. Et c'est vrai que le corps aussi, donc le corps... est complètement lié au visage, mais c'est vrai qu'on peut aussi faire parler le corps à travers ce nouveau visage. Ouais,
ça donne vraiment une nouvelle vie
complètement.
À tes photos.
J'ai envie de citer Christian Boltanski, si vous me permettez, qui m'a également inspirée dans la créativité de ce travail. Donc il dit « On meurt deux fois, on meurt quand on meurt et on meurt une seconde fois quand on trouve votre photographie et que plus personne ne sait de qui il s'agit ». Voilà. C'est pas que je tue mes personnages une seconde fois, mais en appositionnant ces totems sur ces personnages, j'efface la mémoire initiale pour les rendre anonymes de nouveau. En fait. Voilà.
Alors vous venez présenter deux livres, on peut peut-être parler du second. Je sais pas si Soraya ou non, Sandy. Allez, Sandy.
Justement, Lancelot Hamelin qui est auteur. Oui, donc c'était un travail de résidence de création dans l'hôpital de Saint-Alban, donc un hôpital psychiatrique, où donc Soraya Houssine et Lancelot Hamelin sont intervenus pendant une semaine auprès des patients, du personnel soignant, donc un petit atelier d'une quinzaine de personnes à peu près, sur la thématique générale du rêve. Donc qu'est-ce que le rêve, de quoi rêve-t-il, ou également les cauchemars qui sont beaucoup ressortis, les peurs, enfin les angoisses, à partir de... Enfin, l'atelier a été composé à partir d'images que Soraya a réalisées au MIAM, donc Musée international des arts modestes à Sète, donc dans les vitrines de Bernard Beluc. Elle a retiré des petits extraits de ces vitrines, des œuvres et des collections. Et à partir de ces images-là, les patients ou les rêveurs ont créé leurs propres images, c'est-à-dire qu'ils ont interprété leurs rêves et ils ont parlé du rêve vraiment pendant une semaine. À la fin de l'atelier, l'auteur Lancelot Hamelin, qui est en résidence à la Villa Médicis et qui est auteur de pièces de théâtre, a remis un petit peu en scène cet atelier sous forme de voilà, un récit en transformant ses rêveurs comme des personnages. Donc on a le rêveur couleur, le rêveur tatoué, on a un peu tous ces personnages-là. Et ça raconte une nouvelle histoire très riche, très surprenante, qui bouscule aussi. Donc il y a un lien entre ces deux livres dans l'intrigue et dans le perturbant.
Mais là, c'est des témoignages, c'est pas un roman quand même, enfin, ou une pièce de théâtre, ou c'est un mélange de tout ça?
C'est un mélange en fait. Il y a des extraits de témoignages, entre guillemets, des phrases de patients, mais c'est mise en scène, donc c'est vraiment un récit. Je pourrais pas parler de roman vraiment, mais peut-être plus de... Enfin, c'est un mix entre une pièce de théâtre, un roman, du témoignage.
D'accord. Avec des photographies des rêves des rêveurs,
oui.
Qui sont les photos donc prises au MIAM, c'est ça? Où tu as fait d'autres photos pour illustrer.
Il devait y avoir une impulsion qui devait être donnée à la première séance de l'atelier. Et cette impulsion s'est faite à travers les œuvres de Bernard Beluc, qui est cofondateur avec Hervé Di Rossa du MIAM de Sète, le Musée international des arts modestes. Et ces vitrines, en fait, c'est une apposition d'objets du quotidien qu'il a collectés depuis les années 70, en fait. Il fonctionne comme un archéologue. Il récupère des petits bouts des uns, des petits bouts des autres pour en faire des créations. Et ça crée des œuvres monumentales et qui parlent à tous. Encore une fois, c'est des thématiques universelles. Donc moi, j'ai photographié des bouts de ces vitrines que j'ai proposées, qu'on a proposées avec Lancelot Hamelin aux rêveurs, donc les patients de l'hôpital qui ont participé à cet atelier. Et à partir de cette impulsion, en fait, de cette image-là, ils en ont extrait un rêve. Un rêve... un rêve, on ne sait pas si c'est un rêve éveillé, si c'est un rêve endormi, voilà. Mais en tout cas, de ce qu'on en a collecté, cette image-là était une impulsion. À partir de leur récit, de ce qu'ils nous ont raconté, Lancelot Hamelin a fait un récit, donc comme l'a expliqué Sandy, et à partir d'appareils photo jetables, je les ai guidés pour qu'ils puissent sortir une image de ce récit. En fait. Donc c'est une composition tridimensionnelle, si je puis dire, où il y a l'œuvre de Bernard Beluc qui se retrouve dans ce livre, l'œuvre photographique des patients et le texte de Lancelot Hamelin réécrit à partir des témoignages des patients.
Didier, le rêve, ça doit vous dire quelque chose. C'est quoi les thèmes que vous développez un peu dans vos ouvrages? Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur?
Divers et variés. Parce que c'est un peu le quotidien, c'est un peu aussi, comme je disais tout à l'heure, un peu la magie de l'émotion. Alors c'est vrai qu'il y a le temps qui passe, il y a les rencontres que j'ai pu faire aussi. Souvent c'est primordial, et les témoignages, justement, quand j'entendais parler de témoignages auparavant, c'est vrai que c'est important, mais prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'estime que la poésie se doit d'être une référence, entre guillemets, pour notre société, dans le sens où on est à l'heure de Facebook et de je ne sais quoi, et qu'on n'a plus de recul sur beaucoup de choses. Et justement, le livre est là pour prendre ce recul et prendre cette hauteur. Et la magie de la poésie ou d'autres formes d'art doit être là. Pour moi, c'est essentiel. Et c'est ça que j'essaye un peu de faire transparaître dans mes ouvrages.
On parle souvent des artistes comme des éponges qui sont là pour absorber un peu ce que le monde donne et le faire ressortir. Finalement, c'est pareil au niveau de la poésie.
Tout à fait. C'est vrai que, je veux dire, l'écriture, elle est facile parce qu'on l'a autour de soi. C'est-à-dire que si on a l'œil un peu attentif de ceux qui nous entourent, eh bien, on a toute la matière pour essayer justement de faire transparaître tout ça. Et de créer ce jet émotionnel que j'ai l'habitude de dire.
On peut retrouver où vos ouvrages?
Alors, là, c'est essentiellement sur Internet. Donc, nous avons un site qui s'appelle Errance Lozérienne, parce que là, je pourrais peut-être en parler aussi. J'ai fait, il y a quelques années, un ouvrage qui est en vente donc, aujourd'hui au Salon du Livre et dans pas mal d'endroits, qui s'appelle Errance Lozérienne. Et tout à l'heure, quand j'entendais parler d'images et de poésie, on y est en plein, puisque donc avec l'ami photographe qui s'appelle Pierre Plagne, j'ai créé la complémentarité par l'écriture. C'est-à-dire que lui, il a fait les photos, moi je me suis laissé porter par ses photos. C'est moi qui ai fait le choix sur la quantité des photos qu'il m'avait transmises pour que moi je ressente quelque chose par rapport à l'image. Et à partir de là, j'ai créé donc un texte qui est complémentaire, qui est en décalé. Chacun y trouve ce qu'il veut. Donc cet ouvrage s'appelle Errance lozérienne. À partir de là aussi, c'est une forme de voyage en Lozère, puisque toutes les photos avaient été prises en Lozère, sont prises en Lozère. Pour autant, ce n'est pas un livre de randonnée. Et donc,
ce serait un peu lourd et un peu imposant dans un sac à dos.
Voilà, tout à fait. Il y en a qui ont fait le chemin de Saint-Jacques et qui ont vu le livre et ont dit on ne peut pas vous l'acheter parce que dans un sac à dos, c'est difficile, effectivement. Tout ça pour dire, donc, je reviens à votre question de savoir où on peut trouver le livre, effectivement, sur Errance Lozérienne, sur le site. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs à s'y rendre aussi parce que tous les trimestres, depuis une quinzaine d'années, on avait été un peu les précurseurs dans ce domaine-là. On fait un opus trimestriel donc de la rencontre de la photo et de l'image, et donc tous les trimestres il y a une nouvelle exposition qui est mise en ligne, donc vous avez toutes les références. Et ce site a été créé par mon fils Aurélien Bonal, qui je tiens à le souligner aussi parce que c'est très important d'être soutenu aussi dans ce genre de démarche.
Merci. Les éditions de l'Épère, on rappelle le site aussi pour pouvoir commander les livres. Sandy.
Oui, alors en fait, on n'a pas de site internet encore, donc je prends le nom d'Aurélien au cas où, pour plus tard.
Pas de problème.
On en aura besoin.
Pas de problème.
En attendant, on a une page Facebook, donc les éditions de l'Épère, où il y a toute l'actualité de la maison d'édition. Et on a commencé notre diffusion dans des librairies, donc on a une quinzaine de librairies où trouver le livre. En Lozère, il y a la Lorgnette à Mende, le Pré aux Livres à Marvejols, le Rouge et le Noir à Saint-Chély et Florac Presse. Et puis on est également à Marseille, à Bordeaux, à Paris et tant d'autres que j'oublie encore. En tout, on en a une quinzaine.
Voilà, et un peu partout. Mais sur votre page Facebook, on peut justement savoir où retrouver tout ça.
Puis sur place à Grèze.
Ben voilà, à Grèze, avec un café. Hein. Hein, on peut se faire offrir un café plaisir. En somme. Allez. Merci d'être venu sur ce plateau radio. Soraya veut rajouter quelque chose, Soraya ? Non ? Alors au micro par contre, sinon ça ne marche pas.
Je voulais juste ajouter que la réalisation graphique, avait été faite par Agnès Dain en studio. Magnifique réalisation. Que Christine Ulivucci avait participé donc à la préface du livre. Et on remercie les souscripteurs évidemment et le département de la Lozère pour nous avoir soutenus.
Voilà, c'est dit. Merci à vous. On rappelle le Salon du Livre qui se poursuit toute la journée. N'hésitez pas tout cet après-midi à venir faire un tour. Allez, on repart en musique et on quitte l'antenne. Ciao.